Chapitre 12. Un mois plus tard, je reçus une lettre de M. Kerdulen. Il était à Paris, où, d'après M. et Mme Mascudier, il travaillait, se désolait et attendait je ne sais quoi qui modifia pour lui les pénibles événements. « Madame, m'écrivait-il, vous connaissez mon échec, mais, après l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder, je crois convenable, tout en regrettant de vous importuner, de vous parler moi-même du malheureux résultat de ma démarche. » J'étais, je suis encore dans un tel désarroi que vous m'excuserez d'avoir tardé à vous écrire. Ma désolation est amère, elle demeurera inénarrable si je n'épouse pas celle qui est désormais ma vie. Où découvrir le moyen de fléchir une intransigeance que je n'ai même pas le droit de blâmer, car c'est agir en père prudent. Je comprends mieux à distance le mal fondé de mon ambition. Cependant, je me suis avancé parce que j'aimais, non par calcul. Jamais la question d'argent ne m'a influencé et je crains parfois que M. de Falibert en ait jugé autrement. Toutefois, dans cette dure situation qui a deux faces, je conserve de l'espoir. Je crois, sans que la fatuité qui m'est reprochée soit en cause, que les sentiments de Mlle de Falibert me sont favorables. Vous-même le croyez, madame, je m'en suis aperçue. Si vous pouvez agir pour notre bonheur, je vous en conjure, usez de votre influence toujours salutaire. J'ai expérimenté déjà votre bienveillance et j'ai confiance qu'elle me demeure acquise. Je suis bien malheureux. Veuillez agréer, madame, avec tout mon dévouement, mes plus respectueux hommages. Kerdulen. Cette missive, assez simplette et dont l'exagération d'expression pour un amoureux n'était pas trop criante, m'agréa. Je répondis des lieux communs sur le temps qui, dit-on, arrange tout, ce qui est faux, sur les heureuses surprises de l'imprévu qui se produisent rarement et sont généralement désagréables. Heureuses surprises de l'imprévu. Aucun pressentiment ne me fit croire à la véracité de l'affirmation que j'expédiais au capitaine en conservant mon scepticisme. Je ne soufflais mot à personne de cette correspondance, même pas à Madame de Falibert, qui, 6 semaines après le refus essuyé par M. Kerdulen, vint nous parler confidentiellement de ses anxiétés. J'étais seule quand elle arriva. « Où est Manette ? » demanda-t-elle aussitôt. « Il faut absolument que je cause avec elle. » Manette, par cette belle gelée, a entraîné son père dans une longue promenade, mais elle vient de rentrer et descendra tout à l'heure. Sans attendre, Madame de Falibert, bien que je ne posasse aucune question, me confia la tristesse que lui causait le chagrin de sa fille. Le séjour de M. Kerdulen dans le pays a été un malheur pour Cécile et pour d'autres, reprit Madame de Falibert. Pour d'autres, je ne sais. On l'a marié 20 fois, mais ce sont là propos inévitables et sans portée. À part votre fille, madame, si directement intéressée au séjour de M. Kerdulen, personne ne songe et ne songera plus à lui. Vous croyez ? Cependant, on dit que Manette, après cette correspondance de marraine, a éprouvé une déception. Cette correspondance, comme toutes les correspondances du même genre, n'avait rien à voir avec un mariage. L'air triste de Manette confirme cependant l'opinion dont je viens de parler. « Opinion absolument erronée, dis-je tranquillement, malgré ma colère intérieure. Manette, je le sais bien, désire par-dessus tout le mariage de son ami avec M. Kerdulen. Elle sait qu'il l'aime fortement, tendrement. Comment le sait-elle ? Par ses observations personnelles, dès le premier jour, encore plus par les confidences que m'a faites le capitaine et que je lui ai répétées. « Il aime si fortement Cécile, » reprit Madame de Falibert d'un ton inquiet. « N'en doutez pas, quant à Manette, le capitaine n'est pour rien dans son air pensif. Ses préoccupations sont d'un autre ordre. »« Ah, je comprends, pauvre enfant, mais j'espère que cette gêne plus grande n'est que momentanée. Son heureux caractère l'aidera à supporter les ennuis d'une phase pénible et si générale. » Elle glissa rapidement pour revenir à ses soucis, dont elle parla longuement à Manette, qui venait de nous rejoindre. « En causant avec vous, cher enfant, ma fille a-t-elle l'air très malheureuse ?»« Elle parle à peine de M. Kerdulen, madame, mais on voit qu'elle souffre. » Depuis le commencement de notre entretien, Madame de Falibert luttait contre les larmes. Incontinent, elle se mit à pleurer, sans que cette manifestation m'inspirât de la pitié. J'étais irritée et ne me sentais aucunement bienveillante. « Pourquoi ne pas les marier ?» dit Manette d'un ton insinuant. « Ne peut-on être heureux avec des revenus médiocres ?» Les revenus médiocres représentent actuellement un capital déjà assez élevé. Il y a 10 ans, on vivait avec le tiers des revenus nécessaires aujourd'hui et on vivait mieux. Mon mari ne sort pas de ce raisonnement. « Monsieur de Falibert, » dit Manette en traînant sa phrase, « aurait probablement voulu une fortune en rapport avec celle de Cécile, je le comprends. Au moins une dot assortie. » « Seulement une dot assortie, madame. » « Nous sommes raisonnables, Manette. Nous savons que s'assortir complètement est difficile. Si le présent est bien et l'avenir assuré par l'un des deux, on peut se marier. » Dans le pays, les Falibert passaient pour posséder une jolie fortune dont ils se réservaient la presque totalité en ne donnant que 100 000 francs de dot à leur fille. Ce n'était point avarice, mais principe solidement ancré dans la tête de M. de Falibert. Il se défiait de tout le monde dans les questions d'intérêt, même des gens au dehors les plus désintéressés, et, après tout, j'ignore s'il avait tort. Mon mari, lui aussi, s'afflige en voyant la tristesse de Cécile s'accentuer. Il songe à la faire voyager et à lui proposer bientôt un autre parti. « Vous avez l'air incrédule, Manette. Vous ne croyez pas à l'efficacité de notre remède ?»« Non, madame. Cécile est sérieuse dans ses affections, comme en tout. Elle aime M. Kerdulen et continuera à l'aimer. Je sais que vous la connaissez bien, mais raisonnez-la, je vous en prie. Une amie peut aller plus loin que moi. Une mère a facilement l'air de mettre de l'autorité dans son insistance. » Cette remarque m'étonna chez Madame de Falibert et Manette exprima la même surprise après le départ de notre voisine. Elle est vraiment plus intelligente que je ne croyais, ma cousine, et M. de Falibert plus raisonnable. Manette prononçait ces mots au moment où M. Lafade était introduit dans le salon. « De qui parlez-vous, mademoiselle Manette ?»« De Madame de Falibert qui sort d'ici. »« Vous découvrez qu'elle est intelligente ?»« Au moins sur un sujet dont je ne puis vous parler. » Tout le monde affirme que Kerdulen est refusé et que Cécile pleure. Madame de Falibert est inquiète du chagrin de sa fille et cette inquiétude lui ouvre l'intelligence. En d'autres termes, le cœur est des lumières. « Ce n'est pas nouveau, ça, Lucien, » dis-je, agacé sans savoir pourquoi. M. Lafade affecta de nous observer et se mit à rire. « Ah, vous me cherchez noise à propos d'une innocente réflexion. Je ne sais trop ce que vous avez tous. Vous êtes triste, grognon. Je ne reconnais plus le bourdon. » M. Lafade, qui venait souvent nous voir et se mettait en frais de conversations intéressantes, ne croyait pas si bien dire. Nous étions entrés dans une singulière phase mentale. Nous nous renfermions dans nos pensées qui modifiaient en mal nos caractères. Elles abattaient Manette et rendaient Geoffroy irritable. Il continuait sa vie de travail, ses voyages à Paris, et, de ce côté, rien n'eût été changé sans cette irritabilité qui contrastait avec sa douceur naturelle. L'état moral de sa fille l'affligeait, mais l'impatientait également. Manette perdait sa gaieté, elle ne se permettait aucune négligence dans la tenue de sa maison, dans ses attentions habituelles, mais tombait dans des accès de mélancolie qu'elle ne savait plus dissimuler. Geoffroy laissait passer jour sur jour sans sonder mes idées, il redoutait la vérité. Cependant, un soir, quelque temps après la visite de Madame de Falibert, il me dit « Est-ce le souvenir de Kerdulen ?»« Je ne le crois pas. »« Vous ne le croyez pas ? Alors, qu'est-ce que vous croyez ? C'est inimaginable. »« Votre ton est fâcheux, Geoffroy, » dis-je agacé. « Que puis-je à la tristesse de Manette ?»« Ah, pardon, mais vous comprenez, je suis sans cesse contrarié. » Mon beau feu tomba aussitôt. « Oui, je comprends, » dis-je affectueusement, « nous vivons vraiment depuis quelque temps dans une atmosphère bizarre. » « Alors, » dit-il en colère, « qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette bizarrerie? Ne dirait-on pas que des mystères planent autour de nous? J'ai cela en horreur. » Quand cette belle fureur se fut évanouie, il reprit, Pauline, voyez-vous clair dans le cœur de cet enfant? Vous répétez qu'elle n'aime pas Kerdulen, et voyez quel changement s'opère dans son humeur égale, autrefois si gaie. Ma fille triste, cela paraît paradoxal. Kerdulen l'occupe peu, sinon pour son amie, dont la situation l'attriste énormément. Vous n'allez pas me dire que le chagrin de Cécile influe à ce point sur le caractère de ma fille? Je ne répondis rien. Que savez-vous, Pauline? Il me semble que nous vivons dans un malentendu perpétuel. C'est fatigant et attristant. Pourquoi ne causez-vous pas à fond avec votre fille? Elle se dérobera. Nous nous dérobions également, car je ne profitais pas de notre conversation pour m'expliquer, et Geoffroy, sans plus questionner, bien que ce fût le moment, alla s'enfermer dans son cabinet. Un peu plus tard, il vint dans le salon où Manette et moi lisions des yeux, pendant que notre esprit courait les grands chemins. Il se mit à causer comme dans les bons jours et proposa à Manette de partir prochainement pour Paris. « Il faut faire ton voyage annuel. Je suis sûre que Madame d'Aiglis ne le trouvera pas mauvais. »« Non, certes, dis-je vivement. Partez tous les deux, je garderai la maison en votre absence. La solitude ne m'effraie pas. Combien de temps séjournerez-vous ensemble à Paris ?»« 3 mois environ. » »« Mais, dit Manette, vous savez que, par économie, je renonçais à ce déplacement. »« Cette année, nous pouvons réaliser le projet. » « J'irai si vous le désirez spécialement, » dit-elle en hésitant. « Je ne le désire pas spécialement, chérie, mais la distraction est de bonne hygiène morale. »« L'hygiène morale est excellente au Bourdon, » dit-elle en riant. « Vous savez que je me plais toujours dans ma maison. »« Oui, cependant, autrefois, tu partais facilement et disais toi-même que l'hiver, toujours trop long à la campagne, a besoin d'être coupé. » « J'ai vieilli, » dit-elle plaisamment. « En janvier, mes 23 ans ont sonné. » Mais Geoffroy prit la plaisanterie à rebrousse-poil et manifesta aussitôt son impatience. « Tu dis des sottises, Manette, et je ne les aime pas. On ne vieillit pas à ton âge, par conséquent, la raison de ton refus est à dormir debout. » « Je ferai comme vous voudrez, » répliqua-t-elle précipitamment, car la nouvelle humeur de son père la rendait craintive. « Toutefois, puisque vous me consultez, je répète que, sincèrement, je préfère rester chez moi. Je ne suis plus seule, du reste, avec Madame d'Aiglis. » Il n'insista plus, mais le lundi suivant, ce fut une autre chanson. Depuis mon arrivée au Bourdon, notre manière de vivre était la même, quelles que fussent les difficultés croissantes de la vie matérielle et les inquiétudes plus grandes de Geoffroy. Mes rentes, malgré leur médiocrité, maintenaient un peu d'élasticité dans le budget général, car j'avais posé des conditions formelles et ne me réservais que le nécessaire pour mes dépenses personnelles, fort limitées. Manette, en possession des premiers revenus du rubis, pouvait se permettre des mouvements plus larges, mais elle conduisait sa maison avec la même économie. Geoffroy parlait de repeindre les contrevents, les portes d'entrée du jardin, de la cour, et assurément, ces réparations n'eussent pas été d'un entretien somptuaire, mais quand il insistait, Manette répondait « Ce n'est pas le moment, plus tard, en été, nous verrons. » Et le sang lui montait au visage, comme si une insulte venait de l'atteindre, de sorte que les rayons du malheureux rubis s'éteignaient au fond d'un tiroir. « Voyons, Manette, lui dit son père, tu as dans ta bourse 2 000 francs qui ne servent à rien. » Et dans 3 mois, tu en auras encore 2 000. Les voulez-vous ? Dit-elle vivement. Il ne s'agit pas de cela, je ne te les demande pas, tu le sais bien. Mais, ne serait-ce que pour te distraire, tu devrais les employer dans l'habitation. Oublies-tu les projets chimériques que tu as bâtis tant de fois pour restaurer la maison ?
Je n'oublie rien, répondit-elle d'une voix mal assurée.
Eh bien, qu'attends-tu pour en réaliser quelques-uns ?
« Rien, le beau temps. »
« Et quand le beau temps sera venu, tu trouveras une autre défaite. Je ne m'explique pas de tels caprices. » Il s'éloignait tout irrité lorsque Manette se mit à pleurer. « Allons bien, » dit mon cousin en revenant sur ses pas. « Tu pleures maintenant. Mais Manette, je n'ai rien dit. »
« Non, j'ai mes nerfs. Et puis, vous changez, papa, vous. »
Elle s'arrêta suffoquée.
et le pauvre Geoffroy, démonté, alla enfouir sa désolation dans ses paperasses. J'attendis que ma cousine fût calmée pour l'engager à causer avec moi. Je n'en eus pas le temps.
« Vous ne comprendriez pas, madame, cette vieille demeure qui renferme, représente toutes nos saines traditions, la poésie de notre passé et du présent. Doit-elle se réparer avec ce maudit argent ?»«
Ma pauvre Manette, quelle exagération d'un honorable sentiment qui s'inspire d'un point de vue très particulier !» Je m'arrêtai. Devais-je parler contre mes opinions nouvelles ? Si elles n'avaient pas la rigueur des opinions de ma jeune, de mon intransigeante cousine, elles existaient en ce sens que j'admettais aussi bien le jugement de Manette que celui des gens qui pensaient autrement.
« J'ignore si j'ai tort ou raison, reprit Manette, mais je ne suis pas maîtresse de mon sentiment et de mes idées. Jamais je ne répéterai assez que je ne puis ni penser ni sentir autrement. Pourquoi ne me suis-je pas dominée tout à l'heure ? Mais vous voyez le changement de mon père ?
Vous aussi, enfant, vous changez. » Nous restâmes sur nos positions pour le moment, mais cette petite scène, sous une autre forme, se renouvela plus d'une fois, jusqu'au jour où nous entrâmes plus profondément dans l'absurde, s'il est absurde de se libérer en jetant par-dessus bord les idées reçues.